Psaume 130. Cantique des montées. Des profondeurs de l'abîme, je t'invoque, Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des fautes, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme, espère, et je m'attends à sa parole. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, attends-toi à l'Éternel, car la bienveillance est auprès de l'Éternel et la libération abonde auprès de lui. C'est lui qui libérera Israël de toutes ses fautes. Et nous lisons un deuxième texte dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, et nous lirons un des versets les plus connus de cet Épître. Éphésiens 2 et le verset 8. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Je suis certain que chacun ici a reçu un don. C'est des oreilles pour écouter. Sinon, vous ne m'entendriez pas. Vous ne m'entendriez pas. Et tout le monde m'entend, à ce que je sache, hein, en tout cas. Donc, vous avez tous reçu ce don de l'ouïe. Eh bien, de même, nous avons besoin de ce don de l'ouïe spirituel qui est donné par l'Esprit Saint. Et nous comptons sur son œuvre ce matin afin que cette ouïe puisse être activée pour que nous puissions saisir la parole de Dieu, comme à chaque fois qu'on ouvre la parole de Dieu pour la lire et la saisir. John Bunyan, qui écrira plus tard le célèbre Voyage du Pèlerin, lorsqu'il avait une vingtaine d'années, a vécu de grandes luttes, de très grandes luttes. Il aurait pu dire qu'il était dans les profondeurs de l'abîme. Il dit même dans un de ses écrits que personne ne connaît la terreur qui m'inondait à l'époque. Et Bunyan dit ceci. Cependant un jour, alors que je marchais dans la campagne, la conscience inquiète, ces paroles s'emparèrent soudain de mon âme. Ta justice est dans les cieux. Avec les yeux de l'âme, je crus voir Jésus-Christ assis à la droite de Dieu, qui se tenait là comme ma justice. En outre, j'ai vu que ce n'était pas la bonté de mon cœur qui pouvait l'améliorer, ou au contraire y porter préjudice. Car ma justice, c'est le Christ lui-même, qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors, les chaînes tombèrent de mes chevilles, je me trouvais libéré de mes angoisses, et les tentations qui m'assaillaient perdirent leur force. Je ne craignais plus la sévérité de Dieu, et je rentrais chez moi me réjouissant par la grâce et l'amour de Dieu. Bunyan, en fait, est rentré chez lui, heureux, après avoir découvert que la justice n'était pas en lui, mais bien en Jésus-Christ. Vous comprenez la différence? Elle n'était pas en lui. C'est ce qui le rendait malheureux quand il la cherchait en lui. Et quand il a saisi qu'elle n'était pas en lui, qu'elle était en Jésus-Christ, il a été heureux. C'est ce qu'on appelle, en fait, la justification par la foi, qui est si chère à Luther et à tout chrétien fidèle, en fait. La justification par la foi. Ce n'est pas en nous, c'est en Christ, cette justice. Et le psaume 130 est un psaume de la justification par la foi. Vous n'y trouvez aucun sacrifice accompli par le pèlerin, uniquement la foi que le salut se trouve en l'Éternel. C'est un salut pleinement accompli par Dieu. La seule chose que le pèlerin fait ici, c'est invoquer, supplier, espérer, s'attendre et compter sur l'Éternel. Voici en fait les actions du pèlerin, qui sont toutes des actions qui vont en fait, qui s'attendent au salut que l'Éternel lui-même a accompli. Nous allons donc prendre le temps de nous arrêter sur chaque étape proposée dans ce psaume 130. Nous verrons qu'il y a un cri de détresse dans les premiers versets. Nous prendrons un petit peu de temps. Ensuite, nous verrons, deuxième partie, le pardon de Dieu, comme il est déjà expliqué ici dans le psaume 130 dans l'Ancien Testament. Et ensuite, nous verrons ensemble l'appui, l'espérance du pèlerin, en fait, qu'il saisit par la foi. Pour terminer par cette partie où le pèlerin va partager ce qu'il a découvert et pointe vers le libérateur. Voilà un petit peu le programme de ce psaume qui nous guide, hein, on se laisse guider par ce psaume. Et j'aimerais relire avec vous les deux premiers versets qui sont donc l'objet de ce premier point, le cri de détresse. Des profondeurs de l'abîme, je t'invoque, Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Et dans ces deux versets, j'aimerais simplement développer trois choses que nous voyons ici. C'est d'où vient ce cri ? Il vient du profond abîme. À qui est adressé ce cri ? La vocation de l'Éternel. Et qu'est-il dit, ce désir d'être entendu ? Donc, ce profond abîme, d'où est-ce que ce cri monte ? Eh bien, les profondeurs de l'abîme, c'est une image de la condition spirituelle du pèlerin. Et nous trouvons cette image de profondeur de l'abîme très forte, et particulièrement dans les psaumes 69 et 88, où nous lisons ceci. Par exemple, dans 69, « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux me viennent jusqu'à la gorge. Je m'enfonce dans la fange profonde sans pouvoir me tenir. Je suis parvenu au tréfonds des eaux. Un courant me submerge. » Un peu plus loin, verset 15, « Délivre-moi de la boue, que je n'enfonce plus, que je sois délivré de ceux qui m'haïssent et du tréfonds des eaux. Que le courant de l'eau ne me submerge pas, que les profondeurs ne m'engloutissent pas et que le puits ne se referme pas sur moi. » Des images très fortes de la situation où se trouve le psalmiste. Psaume 88, il dit « Je suis compté parmi ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les bas-fonds. » Et un homme un jour a repris ce psaume. Il était au fond de la mer, dans un poisson. Et il dit, « Tu m'as jeté dans les bas-fonds au cœur des mers, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. » Il était au plus profond de l'abîme. C'est Jonas, vous l'aurez reconnu, bien entendu. Les profondeurs de l'abîme du psaume 130, c'est une expression qui indique une situation difficile. Une situation difficile. Une situation qu'on pourrait considérer d'inatteignable, dans un profond désarroi. Un profond désarroi, une grande détresse. Voilà la situation où se trouve le pèlerin qui crie, qui appelle. Et qu'est-ce qui a provoqué cette situation ? Pourquoi est-il dans cet abîme ? Eh bien, le psalmiste ne le dit pas. C'est vrai. Mais la suite du texte nous fait penser à une situation morale due au péché, puisque le psalmiste parlera des fautes et du pardon. Parce qu'en fait, le péché que nous commettons nous envoie dans un abîme profond, d'une telle force que parfois nous pouvons imaginer que l'écho de nos prières n'arrive même pas à sortir de ce trou dans lequel nous sommes tombés suite à notre choix pécheur. On a l'impression que même l'écho ne parviendrait même pas jusqu'à Dieu, tellement nous sommes profonds. Le péché nous éloigne de Dieu et nous pouvons imaginer que nous sommes au fond d'une grotte et en fait avec des tonnes de rochers et de terre au-dessus de nous qui nous séparent de l'air libre. Les profondeurs de l'abîme. Et je crois que nous comprenons que c'est un endroit inatteignablement profond. C'est un lieu où le psalmiste parle comme Jonas dans son poisson sous des tonnes d'eau. Quelqu'un de vivant sur terre pourrait-il l'entendre ? Si nous sommes, prenons les grottes de Motier, puisqu'elles sont connues par certains, tout au fond des grottes, et que nous crions, vous pensez que quelqu'un peut l'entendre ? Non, personne ne nous entend. Et c'est souvent la même chose lorsque nous sommes dans la détresse. Personne ne nous entend. Et pourtant, le psalmiste appelle au secours. Et pourtant, il appelle au secours. Et c'est la deuxième chose que j'aimerais souligner ici dans ces premiers versets, c'est l'invocation de l'Éternel, à qui il s'adresse en fait. Le psalmiste s'adresse à l'Éternel, à celui qui a toujours existé, à celui qui a tout créé, à celui qui maîtrise absolument tout, à celui qui a une ouïe tellement fine qu'il peut entendre jusqu'au plus profond d'un gouffre de plusieurs kilomètres ou même jusqu'au fond de la mer. Voilà l'ouïe de l'Éternel. Il est capable d'entendre celui qui est même au fond de la mer. Et là, ce cri, hein, vous avez vu, verset 2, début du verset 2, « Seigneur, écoute ma voix, Seigneur. » C'est toujours une bonne idée de s'adresser à Dieu avec respect. Seigneur, il reconnaît qu'il est son Seigneur. Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il a passé de la gloire éternelle à une situation d'homme et il s'est donné jusqu'à la mort. Si quelqu'un est descendu plus dans une profondeur qui est inimaginable, c'est bien Jésus-Christ, puisqu'il est venu d'un lieu qui est élevé de façon, je crois qu'on n'arrive pas à imaginer en fait, hein, l'élévation de Christ, et il est descendu jusqu'à nous, jusqu'à la mort. En fait, c'est un abîme qui est bien plus grand que tous les abîmes que nous pourrions vivre. Et il a même été jusqu'au plus profond abîme. Un abîme que ceux qui sont à lui ne connaîtront jamais. C'est l'abandon de Dieu. Donc comme il est venu pour vivre cela pour nous, il n'y a pas de détresse trop profonde où Dieu n'est pas capable d'entendre un cri d'appel. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de détresse trop profonde. Si vous êtes dans des situations parfois de détresse où vous dites « il n'y a plus d'espoir du tout », eh bien il y en a encore. Parce que c'est jamais trop profond pour que Dieu soit capable d'entendre notre cri d'appel. Dieu a un cœur entraîné à écouter l'appel des pécheurs. N'hésitons pas donc à l'invoquer en désirant être entendu. Et c'est la troisième chose qu'on voit dans ce premier verset, donc dans ces premiers versets, à la fin du verset 2. « Écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives. » Alors, la demande d'attention n'est pas une forme de reproche, hein, de dire « Mais sois attentif, tu ne m'écoutes pas. » Ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus une explication de comment il faudrait m'écouter. En fait, ce qui se passe ici, c'est un lien avec d'autres textes dans la Bible. Et si vous allez dans les chroniques, ou si vous vous souvenez des chroniques où Salomon, à la fin de la construction du temple, fait la dédicace du temple, il dira ces paroles, « Maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts, que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. » Et l'Éternel va affirmer à Salomon qu'il répondra à ses prières, un peu plus loin dans 2 Chroniques 7, 15, « Désormais, mes yeux seront ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. » Donc, quand le psalmiste dit « Que tes oreilles soient attentives », il fait référence à la promesse de Dieu d'être attentif. Tu vas le faire. Le psalmiste n'exige rien de Dieu. Comme d'ailleurs Daniel à Babylone, qui a la même attitude que le pèlerin dans le psaume 130. Hein, quand il a compris que les 70 ans d'exil sont passés, il dit une prière à Dieu dans Daniel 9. Et voici ce qu'il dit au verset 18. « Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. » Ouvre les yeux et regarde nos ruines et la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de nos œuvres de justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Ce verset résume même déjà le psaume 130. Il a compris qu'il doit demander simplement l'attention à Dieu, non pas parce que Dieu n'écouterait pas, mais parce que cela est lié à une promesse que l'Éternel a fait. Le psalmiste n'exige rien à Dieu. Il ne lui fait pas non plus de promesses extravagantes. « Si tu m'écoutes, je ferai ceci. » Non. Il lui demande « Écoute-moi, simplement. » Ou il ne fait pas non plus de chantage. « Si tu m'écoutes, ben là, je... » Non. « Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à mes supplications. » Et aujourd'hui encore, nous pouvons faire appel à Dieu, car il nous écoute, il est dit dans 1 Pierre 3:12, « Car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières. » mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Celui qui est en Christ, qui cherche Dieu, il peut relire ce texte dans 1 Pierre 3, 12, quand il a l'impression que rien ne va, que Dieu ne l'écoute pas, il peut aller lire. Car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières. À propos de ce désir d'être entendu, peut-être même mieux que d'être exaucé quelque part, Spurgeon dit ceci, je vous le livre, je le trouve intéressant, qui dit qu'il vaut mieux que notre prière soit entendue qu'exaucée. Si le Seigneur faisait la promesse absolue de répondre à toutes nos requêtes, ce serait plus une malédiction qu'une bénédiction, car cela rejetterait la responsabilité de notre vie sur nos épaules. C'est nous qui devrions décider de tout ce qui serait bon et mauvais pour nous, vous imaginez? Nous serions dans une situation très dangereuse. Mais le Seigneur entend nos besoins exprimés et nous désirons seulement qu'il nous les accorde si sa sagesse infinie voit que ce sera pour notre bien et pour sa gloire. Oh, qu'il est bon de savoir que Dieu fait le tri de nos demandes. Il y a des demandes qui nous paraissent légitimes aujourd'hui et demain nous verrons qu'en fait ce n'était pas légitime ou qu'en fait ça nous menait dans un danger. Donc ce que nous pouvons faire, c'est comme le psalmiste, « Seigneur, écoute ma voix ». Et mes supplications. Et quelque part, réponds selon ta sagesse et non selon la mienne. Voilà pourquoi le psalmiste demande l'attention de l'Éternel et qu'il ne lui donne pas des ordres. Le psalmiste est un exemple. Il appelle au secours celui qui est rempli de compassion, celui chez qui il est possible de trouver le pardon. Et c'est ce qui est souligné dans ce psaume au verset 3 et 4. C'est notre deuxième point, le pardon de Dieu. Relisons ces versets. Et rappelons-nous, nous sommes dans l'Ancien Testament ici. Si tu gardais le souvenir des fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Le pardon se trouve auprès de Dieu. Vous savez, une seule faute suffit pour ne pas subsister devant Dieu. Comme un petit trou suffit pour dégonfler tout un ballon, ou bien un seul maillon de la grande chaîne qui tient le bateau amarré à l'ancre, si un seul maillon casse, le bateau part en dérive. Et Jacques est très clair, vous connaissez ce texte, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable envers tous. Si Dieu gardait le souvenir des fautes, qui pourrait subsister? Qui peut se présenter devant Dieu et dire « Je n'ai jamais commis de faute, je ne connais pas le péché ». Qui peut dire ça? D'ailleurs, juste en passant, les absolus appartiennent uniquement à Dieu. Essayons de ne pas utiliser les jamais et les toujours. Dieu peut les utiliser. Nous, c'est rarement le cas. Mais qui peut se présenter et dire « Je n'ai jamais commis de faute » Eh bien, Romain est parfaitement limpide et clair. Il répond à cette question du verset 3 du psaume 130. Il dit Romains 3, 10, « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. » Et en reprenant le psaume 53, il dit au verset 12, « Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Pas un seul. C'est la réponse à la question du verset 3 du psaume 130. Il n'est pas répondu dans ce psaume, mais la réponse est claire. Le cri de détresse du pèlerin au fond de l'abîme ne peut pas s'appuyer sur son mérite. C'est pas possible. Il ne peut que compter sur la grâce de Dieu. Le pèlerin connaît une nouvelle, par contre, un message, une information tout simplement extraordinaire. J'espère que vous la connaissez aussi. J'espère que vous connaissez cette nouvelle, ce message extraordinaire, qui est la bonne nouvelle, en fait. Le pardon se trouve auprès de Dieu. Le pardon se trouve auprès de Dieu. Souvenez-vous, hein, lorsque le psaume a été écrit, il fallait aller au tabernacle et ensuite au temple avec un animal, faire un sacrifice pour que son péché soit pardonné. Et ici, le psalmiste voit plus loin que les sacrifices. Il annonce que le pardon est fait auprès de Dieu. C'est lui qui accorde le pardon, qui le faisait d'ailleurs déjà à ce moment-là. C'est lui qui choisit de ne plus se souvenir des fautes pardonnées. Et vous savez, le pardon, c'est pas avoir un trou de mémoire, ou simplement oublier la faute passée. C'est choisir de ne plus y revenir, et c'est ce que Dieu fait avec la faute pardonnée. Il choisit de ne plus y revenir. Il les jette au fond de la mer. Il les éloigne autant que l'Occident est éloigné de l'Orient. Les péchés sont couverts par le sang de Christ. Notre acte d'accusation est détruit. Et Dieu ne revient plus sur ce qui est pardonné. Malheureusement, nous venons même des fois nous-mêmes sur ce que nous avons vécu et que Dieu a pardonné. Mais lui, il ne revient plus sur ce qui est pardonné. Et les croyants de l'ancienne alliance n'étaient pas justifiés par le sang des animaux, qui n'était qu'une image, une préfiguration du seul sacrifice parfait et éternel qui peut sauver, laver des péchés, celui de Christ. En fait, dans l'Ancien Testament, les croyants étaient pardonnés par anticipation au sacrifice à venir de Jésus-Christ. Et ils le représentaient par des sacrifices d'animaux. Donc Abraham, David, etc. ont été sauvés par le même salut, par le même pardon que nous, en Jésus-Christ. Simplement, c'était par anticipation. Et les croyants du Nouveau Testament, que nous sommes, sommes pardonnés par le sacrifice qui est fait une fois pour toutes à la croix. Et nous ne le refaisons plus jamais. Nous nous en souvenons, en prenant la scène par exemple. Mais ce sacrifice est fait une fois pour toutes. Et le pardon se trouve auprès de Dieu et nulle part ailleurs. C'est auprès de lui. Nous l'avions vu lorsque nous en parlons. Parler des artisans de paix, hein. Ce pardon, il ne faut pas le chercher en nous-mêmes, nous ne l'avons pas. Mais il est auprès de Dieu et nous pouvons le saisir pour le vivre avec les autres. Et le fait que le pardon se trouve auprès de Dieu, c'est une assurance pour nous. Le fait que le pardon se trouve auprès de lui, c'est une assurance. Personne ne pourra dérober ce pardon et ne sera jamais épuisé pour celui se repent. S'il était ailleurs qu'auprès de Dieu, il pourrait s'épuiser ou il pourrait peut-être être volé. Mais il est auprès de Dieu, ce pardon. Personne ne peut le prendre et jamais il ne s'épuisera. Le fait que le pardon se trouve auprès de Dieu est aussi un rappel pour nous. Un rappel parce que chaque fois que nous allons demander pardon, nous devons aller devant Dieu. Et quand nous allons devant Dieu avec un péché, cela nous rappelle que Dieu est saint et qu'il veut de nous que nous progressions dans la vie et que nous ne péchions plus. Et c'est mieux ainsi, parce que si ce pardon venait d'ailleurs que auprès de Dieu, nous pourrions le prendre en continuant de pécher, en nous disant, ben, plus il y a de pardon, plus on pêche. Le fait que nous devions demander pardon à Dieu nous rappelle notre état et sa grâce. Et cela nourrit aussi notre reconnaissance envers Dieu, qui a tout accompli pour ce pardon. Donc le fait que le pardon se trouve auprès de Dieu est pour nous un rappel. Il est, troisièmement aussi pour nous, une protection. C'est une protection que le pardon se trouve auprès de Dieu. Parce que comme je viens de le dire aussi, c'est un rappel de sa sainteté. Et cela nous aide à comprendre ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 6, verset 1. Que dirons-nous donc ? Quand il a parlé de la grâce, demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Le pardon de Dieu nous est donné, non pas pour que nous puissions continuer de pécher, mais pour nous délivrer du péché. Et quatrièmement, le pardon de Dieu est donné afin que nous puissions l'adorer. Si Dieu ne nous pardonne pas, nous ne pouvons pas subsister devant lui. Le psaume le dit très clairement. Hein. Si tu gardais le souvenir des fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Personne. Et nous ne pourrions pas ce matin offrir un culte à Dieu s'il ne nous pardonnait pas et si le pardon n'était pas auprès de lui. Par contre, lorsque nous saisissons que ce pardon est auprès de lui et que nous pouvons le recevoir et qu'il est parfait et éternel, eh bien, c'est la joie qui s'empare de nous, en fait. Parce qu'il nous a pardonnés, libérés, purifiés, mais aussi la crainte, parce que nous le recevons de Dieu lui-même. Et bien que cette joie et cette crainte s'emparent de nous le dimanche lorsque nous venons l'adorer. Qu'il y ait en même temps la joie, parce que nous sommes pardonnés, nous pouvons subsister devant lui, et en même temps la crainte, parce que cela vient de lui, ce Dieu saint. Donc la question qui est pour chacun de nous, est-ce que nous avons saisis ce pardon qui est auprès de Dieu? Est-ce que nous sommes conscients de cette grâce immense qui nous est accordée par le pardon de Dieu, qui est entièrement préparée par lui et qu'il nous donne si nous le saisissons par la foi? Si tu gardais le souvenir des fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Afin qu'on te craigne. Et c'est magnifique, c'est vrai, de commencer à comprendre le pardon de Dieu. Mais si ce pardon n'est pas saisi personnellement, il est inutile. Il est inutile. Ces grandes vérités sont inutiles. Voilà pourquoi le psalmiste applique cette espérance à lui-même dans les versets suivants. C'est notre troisième point. Où il s'appuie sur ce que Dieu a fait, où il s'appuie sur lui, où il saisit par la foi l'œuvre de Dieu. Lisons les versets 5 et 6. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et je m'attends à sa parole. Mon âme compte sur le Seigneur pour que les gardes ne comptent plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Le psalmiste décrit ici ce qu'il croit. Il espère en l'Éternel et il s'attend à sa parole. Il saisit le pardon par la foi, en fait. Espérer en l'Éternel, c'est placer sa confiance en lui. Attendre le secours et la consolation de lui dans la certitude qu'il nous sera accordé. Donc le jour où vous priez, vous demandez pardon à Dieu, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes pardonné? Eh bien, c'est ce que le psalmiste veut ici souligner. J'espère en l'Éternel. Et il va même parler à son âme pour que son âme ait cette confiance en Dieu. Comme le petit enfant qui ne doute pas que ses parents lui donneront à manger pour vivre. Est-ce que vous pensez que l'enfant, il doute? Il ne doute pas. Il sait qu'il reçoit. Et le fondement de cette confiance, c'est la parole à laquelle le pèlerin s'attend. Donc, quelle grâce d'avoir la parole de Dieu mise par écrit. Ça, c'est un élément aussi intéressant. Pourquoi est-ce qu'il l'a mis par écrit? C'est pour que nous n'ayons pas de paroles qui soient simplement dans notre cœur et qu'on a commencé à avoir l'impression que c'est une illusion, que c'est quelque chose qu'on imagine. Alors que si on l'a écrite, on peut la relire, on peut s'y référer, on peut l'étudier. Et on peut la transmettre. Si c'était juste une parole reçue dans notre cœur, on pourrait mettre en doute, en pensant que c'est le fruit de notre imagination. Et nous ne serions pas capables de les garder exactement. Alors que si elle est écrite, nous l'avons exactement. La parole a été donnée, écrite, afin que nous puissions y placer notre confiance et nous attendre à l'accomplissement de ce qu'il a dit. Voilà pourquoi le psalmiste dit ici, « Je m'attends à sa parole ». Le psalmiste ne décrit pas seulement ce qu'il croit, il parle à son âme ici. Il dit, « Mon âme, espère, mon âme, compte sur le Seigneur. » Ça fait peut-être écho dans votre mémoire à d'autres psaumes, hein, psaume 42 ou 43, où le psalmiste dit, il parle à son âme, il dit, « Mais pourquoi t'abattu mon âme et gémis-tu sur moi ? Attends-toi à l'Éternel. » Parler à son âme. Oh, parfois c'est l'âme qui nous parle. Et là, on doit renverser la chose. Mais il y a des promesses qui sont là. Et on parle à notre âme. Si nous croyons que l'Éternel et que le pardon se trouve auprès de lui, alors nous allons soupirer après lui, étant certains qu'il nous libère et nous purifie. Et dire à notre âme, soupire après lui, comme les gardes soupirent après le matin. Je ne sais pas si vous avez fait de la garde dans votre vie. Peut-être, dans votre service militaire. Moi, je me souviens en tout cas d'une garde que j'avais dû faire dans mon service militaire. Je me souviens très bien, c'était la nuit et je devais faire la ronde autour des véhicules pour voir qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de personnes qui viennent donc dans ces véhicules. Et c'est vrai que seul dans la nuit, je n'étais pas totalement rassuré. Et je me réjouissais en fait de terminer mes rondes. Et j'attendais le matin avec impatience. Mais une chose qui était bien, c'est que j'étais sûr que le matin arriverait. Et c'est exactement ce qui est dans ce psaume ici. Si le garde se réjouit du matin, c'est qu'ils sont sûrs qu'il arrive le matin. Eh bien, comme nous, si nous nous réjouissons du pardon de Dieu, c'est que nous sommes sûrs qu'il nous pardonne. Comprenez, c'est ceci qui est donné ici dans ce psaume. Et c'est ceci que nous voulons, c'est là que nous stimulons notre âme. Mais sois certain, Dieu pardonne, comme le matin arrive pour celui qui fait la garde et qui se réjouit du matin, où là, la lumière est de nouveau là, les gens sont réveillés, les véhicules sont utilisés, il n'y a plus besoin d'avoir peur qu'il y ait des problèmes qui arrivent. Le garde soupire après le matin et il est certain qu'il arrivera. De même, le psalmiste dit à son âme de compter sur le Seigneur. Il veut que son âme soupire après Dieu et qu'elle soit certaine que Dieu agira. Donc, vous pouvez attendre le pardon de Dieu avec la même assurance que le garde attend le matin. C'est certain. Et le pèlerin ne garde pas cette espérance pour lui tout seul. Il la partage, il l'annonce. C'est notre dernier point. C'est les deux derniers versets qui dit « Israël, attends-toi à l'Éternel, car la bienveillance est auprès de l'Éternel et la libération abonde auprès de lui. C'est lui qui libérera Israël de toutes ses fautes. » Le pèlerin ne parle plus seulement à son âme. Il dit « Israël », qui veut dire « peuple de Dieu, attends-toi à l'Éternel ». Il ne garde pas cette merveilleuse nouvelle pour lui tout seul. Il veut la partager. Il explique ce que l'on trouve auprès de Dieu. Vous avez vu ce qu'il trouve ici auprès de Dieu? Que trouve-t-il auprès de Dieu? Au verset 7. Il trouve la bienveillance et la libération. Le terme traduit ici par bienveillance, chesed, je ne sais pas si je le prononce juste en hébreu, ce n'est pas grave. Mais c'est un terme qui se rapporte à l'alliance, qui est difficile à traduire en français. Et afin de mieux saisir ce terme, j'aimerais vous donner ici les traductions possibles. Vous verrez, c'est assez large. Ce terme donc, de bienveillance pourrait être traduit par grâce, miséricorde, bienveillance, bonté, amour, attachement, faveur, affection, compassion, clémence, bonté. En fait, c'est tout ça qui est vers l'Éternel. Quand il parle de bienveillance, c'est tous ces éléments qui sont compris ici auprès de l'Éternel. C'est cette bienveillance qui se trouve auprès de l'Éternel. C'est pourquoi on dit à notre âme, attends-toi à l'Éternel, celui qui est plein de grâce, de miséricorde, de bonté, d'amour, d'attachement, de faveur, d'affection, de compassion, de clémence et de bonté. Tous ceux qui agonisent dans leurs péchés, qui sont dans les profondeurs de l'abîme et qui invoquent l'Éternel, trouvent la libération, le rachat, la rédemption auprès de l'Éternel. C'est le deuxième terme qui parle ici de la liberté ou de la libération. Donc non seulement le pardon est accordé en vertu du sacrifice parfait de Christ, mais plus encore la libération de l'esclavage du péché. Et il est dit ici que la libération, elle a en abondance auprès de Dieu. Elle abonde. Donc il n'y a pas de situation où vous dites, là, ça ne sera plus possible qu'il me libère. Non, c'est plein d'abondance. On peut aller vers lui. Et la dernière phrase de ce psaume résonne comme une promesse, une prophétie qui a été accomplie en Jésus-Christ. Il est écrit, c'est lui qui libérera Israël de toutes ses fautes. Dans ce texte, il est parlé de l'Éternel. C'est lui. Et l'Éternel, ce Dieu, de qui il est question ici dans ce psaume, est venu parmi nous en tant qu'homme. Il a vécu une vie parfaite, le seul. Il n'avait pas besoin d'être libéré ou racheté, parce qu'il n'a jamais commis de faute. Et c'est ainsi qu'il a pu prendre la colère de Dieu. Il a pris le jugement des fautes de son peuple pour le libérer. Ce qui est dit ici, c'est une prophétie. C'est lui qui libérera Israël, donc son peuple, de toutes ses fautes. Et il n'y a pas une faute confessée dans la foi qui ne sera pas pardonnée. Parce qu'il est écrit « toutes ses fautes ». Toutes ses fautes. Pas une ne sera oubliée afin de pouvoir se présenter devant le Saint des Saints et subsister. Celui qui fait partie du peuple de Dieu, tout ses péchés sont pardonnés. Il n'y en a pas un qui manque à l'appel. Nous avons commencé cette prédication en parlant de John Bunyan qui était pris par de terribles angoisses et qui a découvert la justice, le pardon, la libération qui ne se trouvait pas en lui, mais en dehors de lui, en Jésus-Christ. Nous avons parcouru ce psaume que le pèlerin chantait en se dirigeant vers le lieu de présence de Dieu et qui nous indique que l'Éternel entend jusqu'au plus profond de l'abîme. Le pardon se trouve auprès de Dieu. La bienveillance est auprès de lui. Et la libération est abondante auprès de lui. Êtes-vous déjà venu à cette source de vie? Est-ce que vous revenez régulièrement à cette source de vie? Avez-vous compris que le salut ne se trouve pas en vous, mais en Jésus-Christ.
Oh, parfois on le sait, mais dans la pratique, on n'a pas la même théologie. On a une théologie de compréhension, si on veut, puis on a une théologie de pratique. Et on pense qu'on doit faire quelque chose pour être sauvé, alors que le salut n'est pas en nous, il est en Dieu. Êtes-vous dans un abîme profond? Ça peut arriver d'être dans un abîme profond. Eh bien, espérons en Dieu. Car la bienveillance, la fidélité, la grâce, l'amour, la loyauté indéfectible se trouvent auprès de l'Éternel. La libération abonde auprès de lui. C'est lui qui libérera son peuple, l'Église, de toutes ses fautes. Nous allons prier. Seigneur éternel, si l'Esprit ne réchauffe pas nos cœurs, si l'Esprit ne nous donne pas des oreilles, des yeux ouverts, nous ne pouvons pas saisir le salut si grand et si puissant de Jésus-Christ. Et nous implorons ta grâce, que ton Esprit œuvre dans notre cœur et que nous puissions saisir ce magnifique, ce fabuleux message du psaume 130 qui part du profond, des profondeurs de l'abîme et qui termine avec ce chant de triomphe. C'est lui qui libérera Israël de toutes ses fautes. Oui, c'est vrai, Seigneur, nous étions dans l'abîme profond du péché. Et nous avons crié. Et tu as entendu. Ô Seigneur, nous tombons encore parfois dans cet abîme par nos mauvais choix. Et nous te remercions parce que nous pouvons continuer à faire entendre notre voix. Et tu nous entends. Le pardon est auprès de toi. La libération est abondante. Et nous voulons, Seigneur, te louer et te remercier. Mais comme il est auprès de toi, cela nous rappelle toujours que nous ne sommes pas appelés à pécher pour être pardonnés. Mais nous sommes appelés à vivre dans ce chemin de la sanctification en étant pardonnés par ta grâce. Ô Seigneur, j'aimerais te remercier parce que tu ne nous mets pas de pression, mais tu nous encourages à vivre par ta grâce, en saisissant que le pardon est auprès de toi, qu'il est dans une place forte, que personne ne pourra enlever, et que nous pourrons toujours aller saisir dans la repentance et la foi. Ô Seigneur, que ce soit une réalité pour chacun de nous, et pour tous ceux qui sont autour de nous. Aide-nous à être des témoins fidèles aussi, et comme ce pèlerin, que nous ne gardions pas cela pour nous, mais que nous puissions le faire, même si nous sommes peut-être maladroits pour le faire. Seigneur, ce n'est pas à cela que tu regardes, c'est à notre cœur vibrant pour toi. Eh bien, sois loué et sois béni, parce que tu es celui qui nous guide, qui nous renouvelle et qui nous fortifie. Et c'est à toi que nous voulons nous abandonner, dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.